Le grain de sable. Pensée globale. Une mission proposée par l'association Atacrone. Agir local. Le grain de sable.
Bonjour, je viens vous voir parce que j'ai envoyé mon dossier là il y a 3 mois et j'ai toujours pas été payé. Hein.
Votre numéro.
Il t'écrit là.
Vous n'avez pas pointé.
Mais oui, j'ai tout envoyé. Hein.
Mais non, vous avez oublié de me donner les feuilles jaunes.
Non.
Vous n'avez pas donné la bonne adresse de votre employeur.
Mais non.
Vous n'avez pas la jambe gauche bleue. Vous n'avez pas le droit à l'indemnité. Et vous avez la couille droite plus lourde. Ah, pas possible de boucler ce dossier intermittent. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit.
Chill, réveille-toi.
Bonjour, bienvenue sur l'émission Grain de Sable. Comme vous l'avez compris au petit générique, nous allons aujourd'hui parler des demandeurs d'emploi confrontés à Pôle emploi. Pour ce faire, nous avons invité l'association Recours Radiation qui est représentée aujourd'hui par Rosemary Péchala. Bonjour Rosemary.
Bonjour.
Alors est-ce que vous pouvez commencer par nous raconter l'histoire de la naissance et de la création de l'association Recours Radiation ?
Oui, bah d'abord, quand on voit, effectivement, quand on entend la chanson d'Akhenaton, on se dit, mon Dieu, quel cauchemar. Et on peut constater qu'effectivement, au quotidien, le cauchemar, c'est la vraie vie d'un certain nombre de demandeurs d'emploi. Donc, en fait, ce Recours Radiation a été créé suite à une personne qui... suite à une personne qui avait effectivement eu un problème de radiation par Pôle emploi et qui a demandé à quelqu'un de son entourage, qui était un peu costaud juridiquement, de l'aider à faire un recours. Cette personne-là, c'était à l'époque de l'ANPE, donc c'était en 2008. Elle pouvait encore avoir accès directement au service de l'ANPE par téléphone, puisqu'on pouvait joindre son ANPE par téléphone sans passer par le 3949. On pouvait, si on se débrouillait pas trop mal, y compris avoir le directeur au téléphone. Cette personne, qui était juriste, a essayé de démêler l'affaire de sa connaissance pour essayer de faire annuler la radiation. Et elle s'est retrouvée face à un mur. Donc, elle a essayé de chercher par elle-même les informations pour essayer de permettre à la personne de faire un recours. Et là, elle s'est retrouvée sur Internet, bien sûr, avec des appels au secours de plein de gens qui avaient été eux-mêmes radiés et qui eux-mêmes disaient comment on fait pour se sortir de ce méli-mélo. Ce juriste informaticien a récupéré tout plein d'informations, juridiques j'entends, a défendu la personne qu'il connaissait, il a réussi donc à annuler la radiation et il a mis à disposition toutes les informations qu'il pouvait avoir à ce moment-là pour permettre aux gens qui se débrouillent pas trop mal et qui comprennent comment ça peut se passer, qui ont accès à Internet quand même. Donc voilà, c'est vrai que ça limite malgré tout, mais a mis à disposition toutes les informations de manière assez pédagogique pour que chaque personne qui se retrouve avec un problème de radiation à Pôle emploi puisse utiliser les conseils, les informations et tenter d'annuler la radiation. À la suite de ça, il y a eu un forum qui a été créé parce qu'on se rendait compte que même seulement avec le site, c'était pas évident de se défendre. Et Recours Radiation s'est développé grâce aux dysfonctionnements de Pôle emploi nombreux et variés. Et aujourd'hui, ce site ne traite pas seulement par le biais de son forum des radiations, mais aussi des trop perçus à Pôle emploi et de tout autre dysfonctionnement. Voilà.
Alors, on peut aller voir le site internet qui se trouve à l'adresse www.recours-radiation.fr. Alors, quels sont les droits des demandeurs d'emploi? Ont-ils des droits?
Oui, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à leur rappeler leurs devoirs et on insiste lourdement dans différents courriers que s'ils ne font pas ci, ils vont se ramasser une radiation, que s'ils ne font pas ça, ils peuvent être sanctionnés. Mais en ce qui concerne leurs droits, c'est vrai que c'est déjà plus compliqué pour les connaître. Alors, je vais peut-être pas être complète, hein, mais il y a par exemple les droits à congé, puisque voilà, ils ont droit à 35 jours de congé par an. Ils peuvent être accompagnés lors d'un entretien en cas de litige. C'est un peu une liste à la Prévert, mais voilà. Hein. Ils ont un droit d'accès à leur dossier. Donc, effectivement, quand ils ont un doute, ils peuvent demander qu'on leur fasse une copie de leur dossier intégral. Hein. Ils doivent être informés et conseillés sur leurs droits, entre autres sur les aides à la recherche d'emploi, sur les aides à la reprise d'emploi, tous les droits, ils doivent être informés et conseillés. D'ailleurs, il y a une jurisprudence qui a permis à une demandeuse d'emploi qui avait mal été conseillée et mal informée d'avoir un préjudice qui était égal à la somme que Pôle emploi aurait dû lui verser si elle avait été conseillée par rapport à ses droits. Voilà. Donc, voilà. Ils doivent pouvoir obtenir un accusé de réception quand ils font une demande, ce qui n'existe pas en général à Pôle emploi, hein, ou lorsqu'ils déposent un dossier, ce qui serait quand même, du coup, ce qui faciliterait toutes les pertes de documents qu'il y a régulièrement.
Hein, ça veut dire que quand quelqu'un qui veut s'inscrire à Pôle emploi dépose un dossier ou envoie un courrier, il devrait recevoir un courrier de Pôle emploi en disant « Oui, nous avons bien reçu votre dossier, votre demande ce jour ».
Ça pourrait être, si c'est par correspondance, c'est ça qui peut se passer. Mais si c'est, par exemple, la personne qui le dépose à l'agence même pour que ça aille plus vite, par exemple, hein, souvent quand les gens s'inscrivent, ils veulent être indemnisés assez vite. Donc, et leur dossier est précieux parce que tout ce qu'il y a dedans, c'est ce qui va permettre d'être indemnisé. Ils ont toujours peur qu'il y ait une pièce qui soit perdue, qui disparaisse. Donc, normalement, le Pôle emploi devrait accuser de réception de ce dossier en remettant un document comme quoi le dossier est bien reçu. À la place de ça, ce que fait Pôle emploi très souvent, c'est qu'il met à disposition des demandeurs d'emploi une boîte aux lettres, comme ça ils n'ont pas eu à toucher le dossier. Et ma foi, s'il est perdu en route, c'est pas de leur faute, hein, c'est que quelqu'un l'a pris dans la boîte aux lettres. Voilà. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Il y a des pertes de dossiers souvent, il y a des documents qui sont demandés à plusieurs reprises. Voilà. Quand il y a un refus ou un rejet qui est fait à un demandeur d'emploi, il doit bien entendu être motivé en fait et en droit. La plupart du temps, c'est pas le cas. Quand il est motivé, c'est déjà pas mal. On doit indiquer bien entendu les droits et délais de recours. Si c'est un refus qui a des conséquences en termes d'indemnité, c'est quand même bien de savoir que la réponse elle est pas définitive et que les gens peuvent faire un recours ou quand, comment, dans quel délai. Ils peuvent participer à l'élaboration de leur projet personnalisé d'accès à l'emploi. En fait, le projet personnalisé d'accès à l'emploi, c'est tout simplement le profil du demandeur d'emploi au moment où il s'inscrit, dans lequel il est indiqué le métier recherché, le salaire attendu, la mobilité géographique souhaitée, le type de contrat, est-ce que c'est un CDI, un CDD, du temps complet, du temps partiel, etc. Et rien ne doit être imposé aux demandeurs d'emploi. Or, il est assez courant que ce projet personnalisé d'accès à l'emploi ne soit pas fait en collaboration avec le demandeur d'emploi, mais fait souvent parce que les conseillers veulent aller très vite, que effectivement poser plein de questions, ça amène d'autres questions. Donc, du coup,
en fait, ils cochent les petits trucs sur un, sur leur ordinateur à la place du, de la personne, voilà, sans forcément poser de questions.
C'est ça, sans forcément poser de questions, sans aller trop dans le détail, parce que souvent une question amène une autre question et ça fait perdre du temps au conseiller. En tout cas, là, c'est vrai que ça peut avoir des conséquences, un projet personnalisé d'accès à l'emploi, où, par exemple, on indique ce qu'on a vu très récemment là sur le forum, pour une personne qui voulait travailler à temps partiel, on a bien pris en compte qu'elle voulait travailler à partir de 20 heures, mais on est allé jusqu'à dire entre 20 heures et 42 heures, ce qui n'est même pas le temps légal du travail, quoi, puisque on est aujourd'hui, enfin hebdomadaire, on est aujourd'hui à 35. Donc voilà, et effectivement, ça peut avoir des conséquences, puisque toutes les offres d'emploi qui vont être proposées aux demandeurs d'emploi, elles le seront à partir normalement du projet personnalisé d'accès à l'emploi. Et si c'est pas le cas, le demandeur d'emploi peut toujours dire « Mais attendez, ce n'est pas ce que je recherche. » Donc il peut refuser une offre à partir du moment où cette offre n'est pas en adéquation à son profil. Mais si effectivement le projet personnalisé d'accès à l'emploi
correspond,
est rempli par le conseiller seulement et que le demandeur d'emploi n'a pas pris garde de ce qui était indiqué dans le dossier, il peut se retrouver avec des offres qui ne souhaite pas prendre, où il ne veut pas effectivement occuper ce genre d'emploi. Et il peut avoir un problème puisque, comme on le sait, au bout de deux offres raisonnables, dites raisonnables, donc en fonction des critères du profil de la personne, il peut y avoir sanction. Ensuite, pour rajouter à la liste des droits des demandeurs d'emploi, je crois que je ne trouve plus trop là tout de suite. Mais
déjà, c'est déjà beaucoup. C'est vrai que, comme tu disais au début de l'émission, les demandeurs d'emploi ont plus souvent connaissance de leurs obligations et de leurs devoirs et très peu finalement de leurs droits. Et c'était, je pense, très important de le rappeler.
Si, juste une petite chose qui me semble importante aussi à signaler, c'est que les demandeurs d'emploi ont droit à une vie privée et que, par exemple, s'ils ont une indisponibilité inférieure à 7 jours, normalement, ils n'ont pas à se justifier sur cette indisponibilité-là. Et on n'a pas à leur demander de motifs par rapport à une absence qu'ils auraient 2 ou 3 jours de leur domicile, par exemple. Or, aujourd'hui, avec la dématérialisation des courriers, vous avez des demandeurs d'emploi qui reçoivent des convocations le jour pour le lendemain ou le jour pour 2 jours suivants. Or, Pôle emploi, compte tenu de cette particularité-là, à savoir qu'on n'est pas obligé de justifier une indisponibilité de moins de 7 jours, devrait convoquer les demandeurs d'emploi avec un délai de 7 jours. Et ça, c'est pas toujours respecté. Et c'est bien de le savoir.
Et dans ces cas-là, comment un demandeur d'emploi, il fait pour s'opposer ou pour essayer de régulariser la situation s'il n'a pas pu se présenter au rendez-vous qui a été fixé à J+1. Concrètement, qu'est-ce qu'il peut faire ?
Concrètement, il y a plusieurs possibilités. Alors, vous avez ceux qui prennent leur téléphone, qui appellent le 3949. Donc, quand ils appellent le 3949, en général, on les rassure. Là aussi, les conseillers sont un peu pressés par le nombre d'appels. Hein. Donc, leur souci, c'est de rassurer le demandeur d'emploi. Et en général, on lui dit oui, on a bien pris l'information que vous nous donnez. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas parce qu'ils ont bien pris l'information que le demandeur d'emploi a donnée, à savoir une indisponibilité passagère, ou bien qu'ils n'ont pas reçu la convocation et qu'ils viennent de s'en rendre compte parce qu'elle était sur un espace personnel, qu'elle a été envoyée en courrier dématérialisé, etc. Bref, quand le conseiller dit « on a bien enregistré votre appel et on va le transmettre », ça ne veut pas dire que l'absence à convocation a été excusée et que le motif qui a été donné est considéré comme légitime par Pôle emploi. On peut lui dire aussi au demandeur d'emploi, écrivez au Pôle emploi, envoyez votre courrier. Donc si par exemple il y a une personne qui a été radiée, que la décision est prononcée, on peut effectivement lui dire de faire un recours au Pôle emploi, au directeur du Pôle emploi par courrier. Ou bien on va lui dire de se présenter physiquement au Pôle emploi. Et s'il se présente physiquement, il peut se passer qu'on lui donne un papier, un crayon, et qu'on lui dise allez-y, dites-nous pourquoi, de manière très très rapide, sans préciser qu'il y a des motifs légitimes qui sont considérées comme légitimes par Pôle emploi et d'autres non. Et du coup, le demandeur d'emploi qui va dire, par exemple, ma tante avait besoin de moi pour aller faire des courses au supermarché, ça ne sera pas considéré comme un motif légitime et il se fera radier. Donc, si vous voulez, il y a un certain nombre de choses comme ça qui ne sont pas dites et qui peuvent devenir de vrais pièges, puisque le recours, du coup, n'est pas accepté et la décision de radiation est maintenue.
Alors justement, tu parles de radiation. Quels sont les différents motifs de radiation du Pôle emploi?
Alors, y a une loi qui date de 2008 qui est venue ajouter à ce qui existait auparavant et qui a modifié un certain nombre de choses. Dans les obligations des demandeurs d'emploi et les contraintes des demandeurs d'emploi qui peuvent arriver à une sanction si elles ne sont pas accomplies, il y a la définition et l'actualisation du projet personnalisé d'accès à l'emploi. C'est-à-dire qu'il y a obligation pour le demandeur d'emploi de se plier à ça. Il doit également accomplir des actes positifs et répétés en vue de rechercher un emploi. Donc, pour revenir en arrière par rapport au projet personnalisé d'accès à l'emploi, là, il y aurait un problème si le demandeur d'emploi refusait de signer un projet personnalisé d'accès à l'emploi. Mais pour le moment, Pôle emploi fait rarement signer ce genre de document. Ça peut toujours s'arranger. Juridiquement parlant, ça devrait pouvoir toujours s'arranger, puisqu'il n'y a pas une signature et du conseiller et du demandeur d'emploi au moment où le projet personnalisé d'accès à l'emploi est enregistré dans le système. Si ça devait changer, il faudrait encore faire doublement plus attention. Donc le demandeur d'emploi est censé accomplir des actes positifs et répétés en vue de rechercher un emploi. Ça veut dire concrètement qu'il faut qu'il garde toutes les preuves de recherche d'emploi, puisqu'à tout moment ça peut lui être demandé. Il doit se rendre à toute convocation ainsi qu'aux visites médicales destinées à évaluer une aptitude au travail. Alors pour ce qui est des convocations, se rendre à toute convocation, le médiateur de Pôle emploi a fait un rapport sur les radiations. Et en gros, ce qu'il dit, lui, dans son rapport, et ce sur quoi aussi nous avons appuyé, nous aussi, c'est que quelqu'un qui refuse, qui est absent à une convocation, ce n'est pas parce qu'il refuse de se présenter à la convocation. Il peut avoir toutes sortes d'excuses et de justifications qui, même s'ils ne sont pas considérés comme légitimes par Pôle emploi, ne signifient pas du tout que la personne a refusé de se rendre à la convocation. Et c'est quand même un détail qui a son importance. C'est-à-dire qu'il y a un amalgame là qui est fait par rapport, que Pôle emploi fait par rapport à la loi, qui considère que quand la personne est absente, c'est qu'elle a refusé de se rendre à toute convocation, c'est-à-dire à n'importe quelle convocation.
C'est vrai que c'est une interprétation très extensive du mot refuser, parce que dans un refus, il y a une intention.
Voilà,
avoir l'intention de refuser, etc.
Exactement. C'est-à-dire quelqu'un qui écrirait noir sur blanc, c'est pas plus la peine de me convoquer, je ne répondrai plus jamais à vos convocations parce que X chose. On comprendrait qu'effectivement, du coup, la radiation de 2 mois, puisque c'est pas rien, une absence à convocation, le tarif, c'est 2 mois. 2 mois de suspension d'indemnité, quand même. Donc 2 mois de suspension d'indemnité, moi, je connais pas d'autres situation où on est sanctionné de cette manière-là. Quelqu'un qui arrive en retard au travail, bien heureusement, ou peut-être même pas en retard, mais qui s'absente, même y compris une journée de son travail, on ne lui retire pas 2 mois de salaire. Donc il est censé aussi accepter les offres d'emploi dites raisonnables. Et comme on voyait tout à l'heure par rapport au projet personnalisé d'accès à l'emploi, les offres dites raisonnables, ce sont les offres qui correspondent à son projet personnalisé d'accès à l'emploi, c'est-à-dire au salaire attendu, au contrat attendu, au type de contrat attendu, au métier attendu, etc. Si l'offre proposée, par exemple, est à temps partiel et que la personne cherche un temps complet, elle est tout à fait... elle est légitime elle a le droit de refuser cette offre d'emploi et on ne peut pas la sanctionner pour ça. Donc, à la deuxième offre raisonnable, au deuxième refus d'offre raisonnable, il y a une sanction qui peut tomber. Il est censé accepter les actions de formation et aide à la recherche d'emploi. Il doit aussi accepter les propositions de contrat d'apprentissage et de professionnalisation, accepter les actions d'insertion et les offres en contrat aidé, ce qui est quand même assez étonnant là aussi, puisque les offres en contrat aidé, c'est souvent des contrats précaires.
Précaires, oui.
À temps partiel.
À temps partiel, etc. À durée déterminée, oui. Mmh.
Mais bon, là, c'est pareil. Hein. Il faudrait qu'il y ait de la jurisprudence autour de ça pour que le tribunal, les tribunaux disent un contrat aidé, c'est un contrat à temps partiel, précaire, en CDD, etc. Et cette personne, elle recherchait un emploi à temps plein. D'ailleurs, elle a un loyer, une famille à nourrir. Et c'est pas 50% du loyer qu'elle va payer quand elle aura ce type d'offre-là. Et bien entendu, ne pas faire de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi. Voilà, en gros, les obligations des demandeurs d'emploi qui risquent effectivement de poser problème et si jamais elles ne sont pas remplies, il peut y avoir sanction.
Sur l'offre raisonnable, est-ce qu'il y a une question de kilométrage ou de distance par rapport au domicile de la personne ?
C'est ça, oui. C'est-à-dire que un demandeur d'emploi peut, tout au début, au moment où il fait son projet personnalisé d'accès à l'emploi, au moment de son inscription, il peut indiquer qu'il souhaite travailler en bas de chez lui, quoi. Hein, il a le droit. Mais plus ça va aller dans le temps, plus il y aura des actualisations de ce projet-là. Et on exigera lui à un moment donné, probablement, qu'il aille un peu plus loin et qu'il prenne un petit peu plus de temps éventuellement pour aller travailler par rapport à son trajet.
Je rêve d'éclater un type des acédiques, oui, éclater un type des acédiques. Un bien combourné qui veut pas lâcher mon fric. Je rêve d'éclater un type des acédiques. Surtout un qui me sort des excuses en bois pour ne pas lâcher le blé qu'il me doit tous les débuts de mois. Je ne sais pas ce qui me retient de la mocher. Les jours où je suis fauché, lui décocher un crochet. Le premier pour atténuer sa haine qui mijote en lui quand il bloque sur mes chaînes. Ça ne manque pas à chaque fois car selon lui, si je suis ici, je suis forcément un clochard. Un qui me parle mal et qui m'envoie chier 5 fois à la maison chercher des papiers pour me scier, qui me sort des erreurs plus que louches pour ne pas que je touche comme si je lui enlevais de peine sa bouche. Fils, si tu ne veux pas m'énerver, raque-moi les fonds pour les 3 ans où j'ai cotisé. Ce spécimen n'est pas unique et malheureusement depuis, une seule idée magique, je rêve d'éclater un type des acédiques, oui, éclater un type des acédiques. Un bien comborné qui veut pas lâcher mon fric. Je rêve d'éclater un type des acédiques, un type des acédiques. Je rêve d'éclater un type des acédiques. Un bien comborné qui veut pas lâcher mon fric. Je rêve d'éclater un type des acédiques. Je travaille 12 à 18 heures par jour. Un certain aléatoire est mon parcours. Mais quand il sonne à 9 heures chez moi, là c'est trop. Puis je me dis que lui aussi fait son boulot. 2 heures après, je descends pour chercher mon courrier. Là commence le premier courroux de la journée. J'habite au premier, est-ce trop fatigant? Je trouve un avis de passage motif. Absent, mon colis est parti plus vite qu'avec poste. Et moi comme un pigeon, je fais 1 heure de queue à la poste. Pense désormais quand tu appuies sur ma sonnerie que tu peux morfler pour ce genre de conneries. Plus tard, je prends le bus. Plus ou moins à l'heure, essaie de me calmer après le regard du chauffeur. Un vieux maghrébin fait un signe pour monter. C'est à ne battre, s'arrête 15 mètres après l'arrêt. J'ai eu mal au cœur, pas mal de haine aussi. Le vieillard est monté et lui a même dit merci. L'arrêt d'après, les contrôleurs ont investi le bus en civil travesti, sans dire bonjour devant moi comme un piquet. Tu ne vois sèche, il m'a dit le ticket. Les hommes ont un langage afin de communiquer, et pour la politesse ils ont créé s'il vous plaît. Tu voudras bien le dire quand tu vois ma face, ok. Sinon, ticket peut donner un taquet. Je déteste tous ceux qui se prennent pour des flics. Je ne suis pas méchant, mais le respect se mérite. Je rêve d'éclater un type des acédiques, oui, éclater un type des acédiques. Un bien comborné qui veut pas lâcher mon fric. Je rêve d'éclater un type des acédiques, un type des acédiques. Je rêve d'éclater un type des acédiques. Un bien comborné qui veut pas lâcher mon fric. Je rêve d'éclater un type des acédiques. Je descends du bus,
plus juste. En face de moi, le bâtiment farci de gus et plein d'astuces. Faire des embûches, je sais pertinemment qu'économiser est une consigne du ministère. Il y a 4 ans, ils m'ont laissé sans un franc, quand leur patrimoine personnel est un mystère. Le haut de l'État me ramène à la raison. Les plus grands voleurs ne sont toujours pas en prison. Écoutez ces mots, un sourire, non, ce serait trop beau. Ils sont réglés et nous parlent comme à des robots. J'en ai assez de faire les frais de l'humeur de ces gens, je le sens, je vais casser des dents. Que les exceptions dans ces professions m'excusent, mais c'était un devoir de parler de ceux qui abusent. Il fut un temps, j'étais diplomate et passif. Je suis agressif avec les écorchés vifs. Je rêve d'éclater un type des acédiques, oui. Éclater un type des acédiques, un bien con borné qui veut pas lâcher mon fou. Je rêve d'éclater un type des acédiques, un type des acédiques, je rêve d'éclater un type des acédiques, un bien con borné qui veut pas lâcher mon fric. Je rêve d'éclater un type des acédiques. Éclater 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 un type des acédiques.
You win. Perfect.
Alors, on parlait des motifs de radiation de Pôle emploi. Quelle est la procédure habituelle pour contester ces radiations?
Juste une petite chose. J'espère qu'on ne va pas prendre au premier degré, que les auditeurs de Radio Canu ne vont pas prendre au premier degré la chanson d'Akinato, parce que... Il y a aujourd'hui c'est Pôle emploi, hein, il n'y a plus d'ACEDIC, mais il y a des conseillers, beaucoup de conseillers très sympathiques, et qui surtout subissent de manière très très, ils subissent autant que les demandeurs d'emploi cette pression qui leur est faite. Souvent ils n'ont pas les formations qui vont avec le travail qu'on leur demande de faire. Donc voilà, je tenais quand même voilà, surtout à dire que c'était quand même une chanson
un petit
drôle,
clin d'œil, hein. Voilà.
C'est drôle, c'est de l'humour, mais voilà, faut pas prendre ça au premier degré. Donc la question, c'était...
Voilà, comment on fait pour contester une radiation effectuée par Pôle emploi?
Donc la procédure, normalement, à partir du moment où Pôle emploi envisage de radier un demandeur d'emploi, il est censé lui envoyer un avertissement avant radiation. Dans cet avertissement avant radiation, il doit indiquer un certain nombre de choses. Pourquoi il envisage de cette radiation-là, quelle est la durée qui est envisagée par rapport à la radiation, et le demandeur d'emploi est invité à présenter ses observations. Il a 10 jours pour le faire, hein. Pour qu'il puisse présenter ses observations, il faut quand même qu'il reçoive cet avertissement. Or, les avertissements avant radiation, parfois ils arrivent, parfois ils n'arrivent pas. Il arrive, par exemple, qu'il soit envoyé sur l'espace personnel par le biais des courriers dématérialisés, hein, du demandeur d'emploi, qui, à un moment donné, a peut-être cliqué sur quelque chose où on lui disait « Est-ce que vous êtes prêt, est-ce que vous acceptez de recevoir des courriers ou des informations sur votre espace personnel ?» Mais il ne s'imaginait pas qu'il allait recevoir des choses aussi importantes. Et puis voilà. Et puis, il y va tous les mois. Il s'actualise, le demandeur d'emploi. Il a reçu d'ailleurs souvent sa convocation par courrier, donc il ne s'attend pas à recevoir un avertissement à cet endroit-là, où il n'a pas reçu sa convocation parce qu'elle est aussi arrivée au même endroit. Bref, du coup, s'il n'a pas reçu cet avertissement, il ne va pas faire ses observations. Alors on va prendre le cas où il a fait ses observations, il va justifier, si c'est une absence à convocation par exemple, les raisons de son absence à convocation, si toutefois il l'a reçu, hein, cet avertissement. Et là, il y a des motifs légitimes, hein, ce que je disais tout à l'heure, il y a des motifs légitimes d'absence, mais qui sont décidés par Pôle emploi. Hein. Pôle emploi s'est réuni, a décidé qu'il y avait des motifs légitimes d'absence, a fait une liste. Il y a eu un moment d'ailleurs où ces listes-là, elles étaient différentes d'une région à une autre, voilà. Et l'ouverture sur des motifs qui n'ont pas été prévus, c'est pas possible. C'est voilà. Donc ça pose un vrai problème, hein, puisque c'est les tribunaux après qui vont faire la jurisprudence de est-ce que quelqu'un qui tombe en panne deux fois de suite, deux pannes de voiture par exemple, c'est pas possible. Une oui, mais pas deux. Voilà, il y a des choses comme ça. Hein, bon, je vais passer les détails, mais voilà. Donc la personne va faire ses observations, soit elles sont acceptées parce qu'elles sont considérées comme légitimes, soit elles ne le sont pas. Si elles ne sont pas acceptées comme étant légitimes, il y aura une décision de radiation qui va tomber. Et là, le demandeur d'emploi saura qu'il est radié pour deux mois si c'est une absence à convocation, qu'il a encore la possibilité de faire un recours à cette décision de radiation. Hein, il peut encore faire un recours suite à la réception de cette décision de radiation. Et là, le demandeur d'emploi a vraiment intérêt à se renseigner parce que ensuite, c'est le maintien de décision et là, c'est le tribunal administratif. Donc, le recours à une décision de radiation doit être travaillé. Il doit y avoir effectivement une recherche des textes. Essayer de la défendre le plus,
il faut que ce soit argumenté.
Le plus juridiquement possible, parce que parfois les demandeurs d'emploi pensent que en apitoyant celui qui va lire le courrier, il va trouver quelqu'un qui va être clément, qui va comprendre, qui va être humain, etc. Et non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que si le Pôle emploi est dans la comment dire, s'il est en dehors des clous, s'il est en dehors des textes, la décision risque d'être maintenue. Hein. Donc, si la décision est maintenue, c'est le tribunal administratif. Alors, entre la décision de radiation le maintien de la décision, en même temps que la personne fait son recours, elle peut saisir le médiateur, mais ça ne suspend pas du tout les délais. Donc elle peut toujours saisir le médiateur, hein, régional et national. Et elle peut aussi, d'ailleurs, si vraiment ça met la personne dans une situation grave, à savoir des loyers impayés, des factures qui risquent de ne pas être payées, si la personne a des enfants et que c'est les seuls revenus du foyer, il y a une possibilité de faire un référé en urgence. Voilà.
Donc, c'est qui ce médiateur ?
Alors, il y a sur la région Rhône-Alpes, c'est une médiatrice qui est à la direction régionale de Pôle emploi rue Crépet. J'ai pas l'adresse en tête, hein, mais voilà, elle peut être saisie régionalement. Il peut y avoir une saisine aussi au niveau national, hein, auprès du médiateur national, qui est dans les locaux de la direction générale de Pôle emploi. Je crois que c'est à Paris 11e. Il faut savoir aussi que le demandeur d'emploi a un droit d'audition et d'accompagnement dans la phase où la décision n'a pas encore été prononcée. C'est-à-dire qu'il peut demander à être entendu et il peut être accompagné. Et rares sont les agences où ce droit est accordé. C'est-à-dire que souvent, le directeur n'est pas là, il n'y a personne pour recevoir. Dans l'urgence, à Pôle emploi, il y a beaucoup de difficultés pour recevoir les demandeurs d'emploi dans l'urgence. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Il me semble que j'ai fait le tour
sur les
recours,
oui, sur
possibles
les recours
et sur la procédure.
Sur la radiation.
Alors, par exemple, sur notre site, il y a tout le déroulement de la procédure, toutes les possibilités, effectivement, de recours, hein, de l'avertissement. Et puis, il y a aussi des modèles de courrier avec, justement, selon les situations. Bien entendu, on n'a pas trouvé toutes les... On n'a pas fait des modèles de courrier pour toutes les situations, mais on a fait des modèles pour les plus courantes, à savoir, en cas d'absence pour raison de santé, en cas d'absence pour panne de voiture, etc., on a présenté des modèles de courrier. Voilà. Il faut savoir, par exemple, l'avertissement avant radiation, si la personne ne la reçoit pas, il y a vraiment là
un motif légitime d'annuler
la radiation, puisqu'il faut que les demandeurs d'emploi puissent
s'expliquer.
Tout à fait, puissent se justifier en amont de la décision.
Alors, bon, on a parlé du coup des procédures pour contester les radiations. À part ces procédures-là, quels sont les litiges récurrents qui occupent les pôles emploi et les demandeurs d'emploi ?
Alors, il y a les courriers perdus, hein, comme je le disais tout à l'heure, les demandes de pièces déjà fournies, plus une fois, deux fois, voilà, qui sont donc remises sans accusé de réception, ce qui permet effectivement de les demander plusieurs fois. Les rejets d'indemnisation non motivés, parfois il y a un rejet et le motif qui est donné, il est erroné parce qu'il ne correspond pas à la personne. Il y a les cessations d'inscription. Donc, il y a en dehors des radiations, il y a les cessations d'inscription. Il y a les convocations tardives, hein, comme je le soulignais tout à l'heure. C'est-à-dire que quelqu'un qui reçoit une convocation le lendemain du jour où il devait se présenter, ça, c'est assez difficile pour...
Voilà. Oui, ça ne va pas être simple.
Non,
c'est sûr.
Voilà. Et il y a les courriers dématérialisés qui, là, sont une vraie catastrophe, hein, puisque ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que vous avez plein de gens qui ont accepté de recevoir des informations sur ce fameux espace personnel qui n'a rien de personnel d'ailleurs, puisqu'il n'y a que Pôle emploi qui dépose ses courriers et que le demandeur d'emploi, lui, à part y avoir accès pour aller les chercher quand il sait qu'il y a des courriers et quand il... c'est pas du tout un espace personnel puisque c'est Pôle emploi qui les retire quand il a décidé de les enlever. Voilà. Mais c'est les courriers dématérialisés, c'est un vrai problème. Les indus, les trop perçus sont appelés à Pôle emploi les indus. Et là, ça devient une catastrophe aussi. C'est-à-dire que il y a de plus en plus de demandeurs d'emploi qui doivent de l'argent à Pôle emploi. C'est-à-dire que on a l'impression que ce qui était un service public qui était censé indemniser les demandeurs d'emploi, c'est complètement renversé depuis quelques mois. C'est la chasse aux indus de toutes sortes. Et on sait, nous, qu'il y a des erreurs monumentales parmi ces trop perçus, puisque on a pu en rattraper quand même pas mal. Hein. Enfin, un exemple assez caricatural, mais qui est une réalité. Il y a un article sur le site, d'ailleurs, qui est consacré à ça. C'est une personne de Haute-Savoie qui en réclamait 30 000 euros. Et en fait, en réalité, elle ne devait rien du tout. Voilà. Donc les absences d'informations et de conseils, hein, qui sont très préjudiciables et qui peuvent aussi d'ailleurs générer des indus. Alors je peux donner au moins un exemple qui est très courant, le cumul activité et indemnisation. Ça, c'est quelque chose qui devient de plus en plus courant parce que de plus en plus souvent, des demandeurs d'emploi acceptent de prendre des missions courtes, hein, ou des missions qui leur permettent d'avoir un complément indemnisation, mais ce complément indemnisation, normalement, il ne peut avoir lieu que pendant une durée limitée. Quand il s'agit de l'allocation de retour à l'emploi, la date butoir pour pouvoir cumuler une activité réduite et un complément, c'est 15 mois. Donc au bout de 15 mois, les allocations devraient s'arrêter. Déjà, la première chose, c'est que le demandeur d'emploi devrait être informé
que c'est 15 mois maximum.
Il va être complété, mais que ça ne va pas durer plus de 15 mois, ce qui est rarement le cas. Au bout de 15 mois, ça devrait s'arrêter, hein, logiquement, puisque la date butoir, c'est 15 mois. Eh bien non, la plupart du temps, il continue à être indemnisé au-delà des 15 mois. Il perçoit ça plusieurs mois d'affilée, et un beau jour, on va lui dire, eh bien écoutez, vous nous devez tant. Et le demandeur d'emploi va tomber des nues, va pas comprendre ce qui lui arrive. Alors ça, c'est valable pour les personnes qui ont une activité réduite, comme je le disais, à temps partiel ou voilà. C'est valable aussi pour des gens qui créent leur entreprise. Voilà, ils ont cru au miroir, aux alouettes, ils ont cliqué deux trois fois sur Internet et ils sont devenus auto-entrepreneurs. Ils ont 0 € par mois de revenus avec cette activité-là. Mais enfin, ça les fait rêver pendant un certain temps, en tout cas. Là, j'ai l'air de traiter ça cyniquement, mais c'est quand même des choses assez courantes qui arrivent. Hein. Et au bout de 15 mois, ces personnes, au lieu d'arrêter de les indemniser, on continue. Et ils peuvent se retrouver avec des milliers d'euros de dettes parce qu'on a continué à les indemniser parce qu'ils n'ont pas été informés qu'il y avait une date butoir.
Et là, le Pôle emploi va finalement engager la responsabilité de la personne qui a trop perçu, alors que finalement, elle n'a pas été informée et qu'elle-même n'a pas pu interpellé Pôle emploi sur le fait que les versements ont continué finalement.
La personne ne sait rien, elle ne sait pas. Je vous parle effectivement pas des gens qui ont été informés, puisqu'en général, leur problème est résolu en amont. Les personnes qui ne savent pas, la plupart du temps, ça leur tombe sur la tête.
Oui, elles sont de bonne foi.
Voilà, et il y a une avalanche de procédures qui tombent, où les gens n'ont pas le temps de se retourner, il y a tout qui leur tombe sur la tête. En même temps qu'ils reçoivent ce trop perçu, ils reçoivent un courrier comme quoi, la plupart du temps, très souvent, comme quoi ils ont accepté un échelonnement de la dette, alors qu'ils ne savaient même pas qu'ils avaient un trop perçu. Et on leur dit, vous avez demandé un échelonnement de la dette. Ou alors, ils vont recevoir un courrier en même temps que le trop perçu qui leur dit « Vous avez demandé une remise gracieuse de cette dette. » Or, la plupart des gens, du temps, les gens la contestent, la dette. Et la contestent parce qu'ils ne savent même pas à quoi l'attribuer. Ils ne sont pas informés. Quand ils reçoivent le trop perçu, ils ne comprennent rien. Et en même temps, ils reçoivent un courrier qui leur dit « Vous nous avez demandé une remise de dette alors qu'ils n'ont pas encore compris à quoi attribuer cette dette. » Donc on est vraiment dans un truc où il y a une procédure qui s'enclenche et où Pôle emploi envahit le demandeur d'emploi de courriers, de textos, de lettres en tout genre, et avec des délais très très rapides. Et voilà quoi. Hein.
Et vous, l'association Recours à Radiation, comment vous intervenez face à ces litiges? Est-ce que vous pouvez accompagner justement les demandeurs d'emploi pour les aider dans ces démarches-là et à comprendre un petit peu ce qui se passe quand tout ça, ça leur arrive sur la tête?
Alors on le fait via le forum, c'est-à-dire qu'effectivement, les demandeurs d'emploi arrivent en disant en général au secours, ouais, des choses comme ça, quoi, trop perçus avec des points d'exclamation, etc., etc. Et donc, ils expliquent leur situation. Donc, nous, à chaque fois, on essaye de démêler les choses et de voir si la procédure a été respectée ou pas. La mise en demeure arrive assez vite hein, pour les demandeurs d'emploi. Et souvent, la mise en demeure, elle arrive alors que les gens sont toujours pas au clair sur ce qu'on leur a demandé et pourquoi on leur a demandé, quoi. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de leur donner ce qu'on a appris. Hein, parce que, franchement, le site, au départ, il était créé pour lutter contre les radiations et pas pour... On a été obligé d'apprendre, nous, l'équipe de Recours Radiation, à défendre les demandeurs d'emploi face à ces problématiques d'indus. Et ce qu'on a appris comme jurisprudence, ce qu'on a appris comme recours possible, ce qu'on a appris avec les tuyaux que nous donnent un certain nombre de gens qui sont encore à Pôle emploi et qui font ça de manière un peu clandestine. Hein. C'est-à-dire que on reçoit des mails de personnes avec des pseudos qui nous disent « Tenez, voilà, cadeau, cette instruction peut vous servir. » On a reçu le vadémécum des instances paritaires régionales un peu de cette manière-là. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est... c'est quand même incroyable, qui n'est pas à la disposition de tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des règles de fonctionnement de ces instances paritaires régionales les règles, elles sont connues des membres des instances paritaires régionales, mais les demandeurs d'emploi, eux, ne les connaissent pas. Et souvent, ils ne savent même pas comment les saisir, ils ne savent même pas comment leur dossier va leur arriver, etc. Voilà. Et on a l'impression quand même que il y a pas grand monde qui défend les demandeurs d'emploi aujourd'hui, c'est-à-dire que les organisations syndicales de salariés, on va parler des 5 confédérations qui siègent à l'UNEDIC, on a l'impression qu'elles continuent de défendre les salariés, et encore c'est à eux de le dire, mais en ce qui concerne les demandeurs d'emploi, c'est pas le cas. Dans les instances paritaires, par exemple, on a franchement l'impression qu'ils continuent à protéger le régime de l'UNEDIC et que ils gèrent ça comme des bons pères de famille, comme s'il s'agissait du budget, du foyer. Mais en l'occurrence, les demandeurs d'emploi ont cotisé. Il y a eu une assurance qui a été donnée à un moment donné. S'ils perçoivent des indemnités, c'est parce qu'ils ont travaillé un certain temps quand même. Autrement, ils ne les percevraient pas. Et ils sont piégés régulièrement au sein de cette institution. Et il n'y a personne pour les défendre.
Alors, vous avez quand même eu des belles victoires, apparemment, avec Recours Radiation. Alors, sur quel point vous avez réussi à obtenir des avancées ou une protection supplémentaire des droits des demandeurs d'emploi?
Bon, le truc le plus énorme, c'est quand même les radiations rétroactives qui se sont arrêtés. C'est-à-dire qu'auparavant, c'est pas toujours simple à expliquer, mais auparavant, quand Pôle emploi décidait d'une radiation, au lieu de radier le demandeur d'emploi à la date où la décision était prise, comme vous avez vu, avant la décision de radiation, il y a quand même l'avertissement avant radiation, etc., eh bien, il prenait la décision de radiation à la date de l'événement qui avait conduit à cette radiation-là. C'est-à-dire, pour une absence à convocation, la radiation, elle partait du jour où la personne ne s'était pas présentée à la convocation. Ce qui fait que les demandeurs d'emploi se retrouvaient avec un trop perçu au moment où la décision de radiation était prise, qui était parfois d'un mois, un mois et demi. C'est-à-dire que non seulement ils étaient radiés avec cette sanction de deux mois, mais qui plus est, ils devaient déjà de l'argent à Pôle emploi, alors qu'ils savaient qu'il n'y allait pas avoir d'indemnité qui allait tomber encore pendant un certain temps. Ça, c'était pas légal. D'ailleurs, à chaque fois que le demandeur d'emploi allait au tribunal administratif sur ce fait-là, la radiation était annulée. Donc nous, on disait en gros, il y a 500 000 radiations par an. Ces 500 000 radiations sont illégales, puisque toutes sont rétroactives. Il se trouve que ça faisait quand même un peu plus de 20 ans qu'on se battait là-dessus, bien avant que recours radiation existe. Un certain nombre de syndicalistes défendaient déjà les demandeurs d'emploi il y a 20 ans, dont je faisais partie, et on se battait déjà sur les radiations rétroactives. Et on a mis plus de 20 ans à gagner là-dessus, sachant que quand même le rapport du médiateur national, Monsieur Walter, a dû aussi contribuer à ça, puisque dans son rapport sur les radiations, il insistait lui aussi sur le fait qu'il fallait mettre fin à ça. Et il nous semble que ça n'a pas dû être une affaire simple avec l'UNEDIC, puisqu'il y a eu des négociations, on pense, autour de ça, assez mesquines, hein, puisque par exemple, avant, l'avertissement avant radiation, pour faire ces observations, les demandeurs d'emploi avaient 15 jours de délai. Aujourd'hui, ils en ont 10.
Ils en ont plus que 10, voilà. Ouais. Ah oui. Donc d'un côté, on gagne des choses, et puis de l'autre côté, on essaie un peu aussi de voilà, réduire les délais, voilà, pour que les gens puissent se défendre, voilà, plus difficilement. Et alors, bon, ça c'est une belle victoire effectivement, parce que c'est vrai que pour quelqu'un qui se retrouve radié à devoir en plus rembourser ce qu'il a perçu auparavant, c'était quand même complètement incohérent. Quels sont les prochains combats de recours radiation, les points sur lesquels il vous semble que ce serait vraiment important de se battre, et puis de peut-être d'en parler plus?
Il y a une autre victoire dont on est content.
Ah,
on
est très, super, très content.
Donc
parlons-en.
On a fait un seul référé liberté fondamentale. Et dans les 48 heures, même pas, hein, le trop perçu que la personne devait a été annulé par Pôle emploi. C'est-à-dire qu'il a suffi qu'on dépose le référé liberté fondamentale pour qu'un samedi, Pôle emploi informe le demandeur d'emploi que le trop perçu de 4000 euros était annulé. Hein. Le référé en question a été reçu, donc il y a eu une ordonnance sur ce référé-là. Donc on était assez contents de nous. Et pour nous, c'est aussi, voilà, on apprend en faisant, et on n'a pas l'intention de s'arrêter là. Alors pour répondre à la question, quels sont nos prochains combats, il y en a de nombreux, hein, puisque de toute façon on a l'impression que nous, ça fait quand même un moment qu'on dit les choses haut et fort. Il y a eu une mission d'information par l'Assemblée nationale. Il y en avait eu une auparavant par le biais du Sénat. On a été auditionnés à ce moment-là par des députés et par les sénateurs. On a fait des rapports, on a présenté des choses écrites, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas contenté de râler, hein. On a présenté des choses écrites de tous les dysfonctionnements qu'il y avait, et on a l'impression que ça ne bouge pas trop. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est obliger Pôle emploi à être transparent avec les demandeurs d'emploi. Effectivement, que les demandeurs d'emploi aient accès. Si vous voulez, il y a un espace personnel aujourd'hui du demandeur d'emploi, et Pôle emploi, comment dire, met dans ce... dans cet espace, ce qu'il entend y mettre. Mais par exemple, si les demandeurs d'emploi veulent des historiques de leur inscription, s'ils veulent un certain nombre d'informations, ils sont obligés de se battre pour d'envoyer des courriers recommandés, etc. Nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'ils aient accès à leur dossier de manière déjà peut-être informatique, mais pas que. C'est-à-dire que voilà, qu'ils aient accès à leurs demandes, qu'en plus tout ça soit compréhensible par tous. C'est qu'aujourd'hui, on a franchement l'impression que seuls les spécialistes, les experts de Pôle emploi comprennent les règles. En ce qui concerne l'indemnisation, c'est flagrant. C'est-à-dire que en dehors des conseillers ex-ACEDIC, pour dire les choses, ou de ceux qui ont été formés de manière efficace et c'est-à-dire donc au moins 6 mois de formation, hein, et qui ont continué à travailler et à travailler sur l'étude des dossiers, l'indemnisation, etc. Hein, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'être formé, encore faut-il appliquer la formation au quotidien. Seules ces personnes-là sont en capacité aujourd'hui de comprendre les règles. On a franchement l'impression que c'est un langage à part et que seuls les gens qui parlent cette langue-là sont capables de comprendre.
Mais c'est quoi cet objectif, en fait, que ce soit si incompréhensible, si que finalement ce soit un brouillard. Enfin, quels sont les objectifs et quels sont les responsables finalement de ça, quoi. C'est pour que les gens finalement ils s'y retrouvent pas, puis ils soient moins bien indemnisés. Enfin,
les responsabilités, elles sont assez partagées quand même. Par exemple, on va parler de choses encore plus simples, hein, parce que les règles de l'indemnisation sont compliquées depuis longtemps. Ça fait longtemps que, et donc du coup, si vous voulez, ça permet aujourd'hui aux partenaires sociaux, par exemple, et puis à d'autres, de dire il faut qu'on simplifie les règles. Or, c'est pas les règles qu'il faut qu'on simplifie, c'est comment dire, c'est qu'il faut parler comme tout le monde et qu'il faut donner les clés à tout le monde. C'est-à-dire que si les clés ne peuvent pas être passées à n'importe qui, voilà, s'il faut être il faut avoir effectivement des codes d'accès pour pouvoir ouvrir les portes, ça va pas. Il faut on peut très bien appliquer une indemnisation aux demandeurs d'emploi en donnant des règles qui sont compréhensibles par tous. Alors, la responsabilité, elle est quand même partagée. Le conseil d'administration du NEDIC, il est tripartite. Vous avez l'État, vous avez les partenaires sociaux, vous avez Pôle emploi. Et voilà, et on a beau dire c'est compliqué, c'est complexe, et il faut simplifier ça. Nous, ce qu'on craint, c'est que la simplification, elle soit plus par rapport à l'indemnisation en tant que telle, et que les demandeurs d'emploi, ils perdent en termes d'indemnité, de montant d'indemnisation, que ça fasse passer à la trappe un certain nombre de choses, alors qu'on pourrait réfléchir à donner des règles plus simples. Enfin, voilà. Faire des règles qui soient plus simples. Quelque chose qui pourrait être fait depuis très très longtemps et qui est dénoncé depuis très longtemps, c'est les courriers. Les courriers que Pôle emploi envoie, c'est dénoncé de rapport en rapport du médiateur. Hein, dès le premier médiateur à Pôle emploi, ces courriers compliqués avaient été mis sur le tapis. Depuis des années, il est dit qu'effectivement, il faut que Pôle emploi simplifie les courriers. Et c'est toujours sur la table de travail, et on ne sait pas du tout où ça en est. Et quand on lit les courriers de Pôle emploi, ils sont toujours aussi compliqués, quoi. Les notifications d'indus, par exemple, ne sont pas claires. Et surtout, les règles de droit ne sont pas respectées. C'est-à-dire qu'on ne dit pas aux gens quels sont les recours qu'ils peuvent avoir, etc.
Oui, il y a quand même quoi devenir un peu fou quand on se retrouve face à un peu, c'est un peu un rouleau compresseur quand même parfois, ce système. Même si tu disais tout à l'heure qu'il y avait des gens qui étaient très bien, qui travaillaient à Pôle emploi, ça ne doit quand même pas être simple de se retrouver dans des situations qui sont complexes et qui ne sont pas facilitées par de la transparence et puis par un langage simple.
Tout à fait. Si on prend l'exemple des trop-perçus, par exemple, Pôle emploi a décidé que les problèmes des trop-perçus, ça devait être de la responsabilité de chaque conseiller. Chaque conseiller aujourd'hui est mis à contribution pour réclamer les trop-perçus aux demandeurs d'emploi à chaque contact, quel que soit le contact. qu'ils soient au téléphone, que ce soit par mail, que ce soit par, par courrier, que ce soit en entretien en face à face. Et chaque conseiller est mis à contribution là-dessus. Hein. Or, il n'y a qu'une partie infime des conseillers qui sont formés à l'indemnisation. Donc, ils n'y comprennent rien. Ils sont incapables, ceux qui ne sont pas formés, sont incapables de vérifier si l'indu est réel ou pas et s'il n'y a pas une erreur dans le système. Donc, on voit bien, effectivement, qu'en rendant les demandeurs d'emploi un peu fous, on rend aussi les conseillers un peu fous.
Alors, on va devoir terminer, malheureusement, dans quelques minutes sur un sujet aussi vaste. Juste en quelques minutes ou en quelques secondes, qu'est-ce que pense Recours Radiation du Micmac sur ces radiations, soi-disant de la responsabilité des CFR?
Bah, le compte n'y est pas. Nous, ce qu'on dit, c'est le compte n'y est pas. Déjà, c'était pas des radiations. La différence, c'est que les cessations d'inscription, c'est pas une sanction. Hein. La cessation d'inscription, on peut se réinscrire immédiatement sans problème, aussitôt qu'on s'en rend compte. En réalité, il paraîtrait que il y a eu 38,8% de plus de demandeurs d'emploi en plus par rapport à d'habitude qui ont eu une cessation d'inscription pour défaut d'actualisation. Donc 38,8%, c'est énorme. Parmi ces 38,8%, non pas parmi ces 38,8%, parmi les gens qui s'actualisent tous les mois, il y en a 15% qui sont prévenus par SFR, seulement 15%, par texto, pour leur dire, attention, l'actualisation va arriver à échéance. Donc 15% sur la masse de tous les demandeurs d'emploi. Il y aurait, paraît-il, un certain nombre de demandeurs d'emploi qui n'auraient pas reçu ce rappel-là. Ça ne veut pas dire que les 38,8% déjà reçoivent en général un texto. Ça ne veut pas dire que parce qu'ils n'ont pas reçu le texto, ils ne sont pas actualisés. Donc, pour nous, l'explication, elle ne tient pas. Il y a autre chose. Comme on n'est pas, on n'est pas devin, on ne sait pas. En tout cas, les explications qui sont données aujourd'hui, elles ne sont pas convaincantes du tout. Voilà.
Eh bien, Rosemary, merci pour toutes ces explications. J'invite chacun d'entre vous à aller consulter le site www.recours-radiation.fr. Et juste avant de terminer, une petite information. Le collectif du 20 octobre propose une projection du film Diaz, donc le 20 octobre à 19h au cinéma Le Zola, et ce sera suivi d'un débat. À dans 15 jours.
Merci.
Kiss promise. Don't do it.